Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
We need it. Must have the precious.
Bonjour à tous. C'est une information aberrante qui a fait le tour du net, celle d'un homme, médecin turc, qui risque la prison pour avoir caricaturé le président de la République de son pays, Recep Tayyip Erdogan, caricaturé en Gollum, le personnage emblématique et désormais tristement célèbre du roman Le Seigneur des Anneaux. On le sait, le président turc n'aime ni la critique, ni les caricatures. En 16 mois, 900 requêtes ont été ouvertes pour insultes au chef de l'État. Mais cette fois, cela va plus loin, à Istanbul, à Nandlaouar.
2 années de prison, c'est ce que risque Bilgin Çiftçi, un médecin turc de la province d'Aydın, pour avoir eu l'insolence ou l'humour de comparer le président turc Recep Tayyip Erdogan à Gollum, ce personnage fictif des romans de Tolkien, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Les avocats du président ont porté plainte cet automne après que le médecin s'était amusé à publier sur son compte Twitter 2 photos, l'une de Tayyip Erdogan, le visage apparemment surpris, et l'autre du célèbre Gollum, les yeux exorbités. La comparaison n'a pas fait rire le chef de l'État qui a porté plainte pour insulte, comme il a l'habitude de le faire, souvent avec succès. Problème, le juge chargé de se prononcer n'a pas lu ni vu Le Seigneur des Anneaux. Il a donc estimé qu'un collège d'experts serait opportun pour l'éclairer. 2 universitaires, 2 psychologues et 1 spécialiste du cinéma ont été priés de répondre à cette question épineuse. Gollum est-il ou non un caractère maléfique ? Si la réponse est oui, on imagine que le médecin qui a osé le comparer à Recep Tayyip Erdogan n'échappera pas à la prison au cours de la prochaine audience fixée en février. Il a déjà été licencié par son employeur, le ministère de la Santé. Ses avocats qui ont médiatisé l'affaire hésitent entre l'humour et la consternation. Ils ont tout de même versé au dossier des images de Gollum, comparées cette fois-ci à Barack Obama, au pape ou à Angelina Jolie. 3 personnalités qui n'ont évidemment pas porté plainte. Si leur client est condamné, ils promettent une campagne pour libérer Gollum. Plus sérieusement, ils rappellent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de satire des personnalités publiques. Celle-ci privilégie la liberté d'expression. L'affaire est en tout cas déjà arrivée jusqu'à Hollywood. L'acteur Elijah Wood, l'une des stars de la série, s'est fendu d'un tweet de soutien au médecin turc. Je cite son message. « Que Gollum soit bon ou mauvais, le fait que Bilgin Çiftçi risque la prison pour l'avoir comparé à Erdogan est juste effroyable. »
Le compte à rebours a commencé pour trouver un accord avant la fin de la semaine lors de la grande conférence climat de Paris, la COP21. En 1997 déjà, le protocole de Kyoto voulait réduire de 60% d'ici 2050 la production de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Près de 20 ans plus tard, l'objectif paraît difficile à atteindre. Certaines initiatives timides montrent pourtant la voie, comme cette plateforme logistique de livraison installée dans le centre de Paris plutôt qu'en banlieue pour éviter les allers et retours et les bouchons. De là, les colis partent vers leur destinataire en véhicule électrique. Reportage dans l'espace logistique urbain de Beaugrenelle, signé Laurent Berthaud.
Nous sommes à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel, dans un ancien parking reconverti en centre logistique. C'est l'opérateur de messagerie rapide Chronopost qui s'est installé ici en 2013. À 6h du matin, l'activité bat déjà son plein. Plusieurs salariés vident le contenu d'un camion, un porteur dans le jargon de la Poste, sur un tapis roulant. Michael Cartron, en charge de la responsabilité sociale et environnementale à Chronopost.
Concrètement, c'est un espace où on traite 4500 colis en distribution pour les arrondissements parisiens limitrophes. Le matin, des porteurs apportent les colis qui sont ensuite préparés et distribués par des chauffeurs en véhicule électrique et en véhicule utilitaire. Et là, l'objectif, c'est effectivement, en 2 heures de traitement, de préparer tous nos colis et que nos 35 tournées, en fin de compte, qui partent de Beaugrenelle, doivent partir avant 8h30. Alors ici, on a 2 porteurs qui nous apportent le fret, donc 2 quais.
4 à 5 camions en tout et pour tout qui arrivent de grandes banlieues, tôt le matin, évitant les bouchons. Une vraie rupture avec l'ancienne organisation, lorsque le centre était installé à Rungis, à quelques kilomètres au sud de Paris.
Les camions arrivaient à Rungis vers 5h30, 7h30, comme vous pouvez voir aujourd'hui, et les chauffeurs partaient en tournée de Rungis à 8h30. Donc il partait dans les bouchons, en même temps que tout le monde. Donc il participait à la congestion. Et il ne pouvait pas partir avec des véhicules électriques parce qu'il y avait une tournée qui était un peu plus longue. Donc c'est vrai que le fait d'avoir recentré une agence dans Paris va nous permettre des circuits de distribution plus courts et avec des véhicules électriques ou autres pour avoir un impact environnemental moindre. Donc là, vous avez effectivement deux lignes de convoyage qui apportent les colis. Vous avez deux agents qui flashent les colis et qui les orientent en fonction de leur destination.
Quand on entend la trompette qui sonne, ça veut dire quoi ?
La trompette qui sonne, ça veut dire qu'effectivement, on a ce qu'on appelle chez nous un bourrage de colis, c'est-à-dire des colis qui se sont accumulés. Et dans ces cas-là, le convoyeur s'arrête pour laisser le temps aux opérateurs de les flasher et d'enlever les colis qui gênent.
Mais tous ces bruits de trompettes, de chariots, de camions et de camionnettes restent confinés dans le centre logistique installé au cœur d'un quartier de Tours résidentiel. Éviter toute nuisance était l'une des conditions posées par la mairie de Paris. C'est le groupe de logistique Sogaris, société d'économie mixte publique-privée, qui a rénové cet ancien parking. Et ce n'est qu'un début, selon sa directrice générale Caroline Grandjean, même si ce n'est pas toujours facile.
La première clé, c'est trouver de l'espace pour opérer de la logistique proche des bassins de consommation. Donc trouver des espaces qui sont des anciens parkings qu'on réaménage en agence Chronopost, par exemple. Discuter aussi avec les aménageurs pour que dans les conceptions des nouveaux quartiers, la solution de logistique urbaine soit intégrée et que des zones de livraison adaptées et des espaces qui soient utilisables par les opérateurs qui viennent assurer des livraisons soient également réservés. Et puis travailler en partenariat étroit aussi avec les collectivités locales et notamment la ville de Paris, mais pas seulement, pour que justement ces zones logistiques soient maintenues. Et puis, deuxième levier important, trouver des solutions alternatives, je dirais, aux tout-routes. Et on a notamment un projet important dans le 18e arrondissement à Paris d'hôtel logistique avec une navette ferroviaire associée, avec l'objectif donc d'avoir deux navettes par jour de fret ferroviaire qui rentreront dans Paris, dans un bâtiment situé au cœur de Paris, et qui seront, ces marchandises, ensuite diffusées par des véhicules adaptés à l'environnement urbain, donc de plus petite taille que les gros poids lourds qu'ils sont censés remplacer, et d'une motorisation qui soit aussi adaptée à l'évolution de la réglementation qui devient de plus en plus contraignante sur le type de véhicule à utiliser.
Depuis le 1er septembre, les camions immatriculés avant octobre 2001 n'ont en effet plus le droit de circuler entre 8h et 20h à Paris. Première étape du plan d'éradication des véhicules diesel et essence les plus polluants. Installer des centres logistiques en centre-ville devrait contribuer à y réduire le nombre de gros camions.
Et en Bosnie, on est encore loin de pouvoir montrer l'exemple. Le pays est plutôt connu pour ses voitures polluantes, ses décharges sauvages et son recours massif au charbon. La capitale, Sarajevo, est même classée par l'Organisation mondiale de la santé comme une des villes les plus polluées d'Europe. Mais là encore, l'innovation pointe le bout de son nez. À Tuzla, deux adolescentes ont étonné le monde scientifique avec leur drôle de machine capable de fabriquer du biocarburant avec des plumes de poulet. L'invention a été primée plusieurs fois aux États-Unis au Google Science Fair et les deux jeunes filles ne veulent pas en rester là. Elles comptent bien coupler ces vertus environnementales avec un débouché économique. En Bosnie, Emma Roulin est allée les rencontrer.
Dans le lycée international de Tuzla, en périphérie de la ville, les récompenses d'Anela et Hilda sont affichées sur les murs comme des trophées. C'est ici que l'aventure de ces deux apprentis scientifiques a débuté. Anela Arifi et Hilda Ismaili aiment se décrire comme des sortes d'extraterrestres de leur génération. Depuis 2 ans, elles passent leur temps libre à éplucher des articles scientifiques et à faire des expériences au lieu de sortir avec leurs amis. Épaulées par leur professeur, elles travaillent à la conception d'une machine capable de produire du biocarburant de la façon la plus écologique possible. Explication d'Anela Arifi.
Le biocarburant peut être fabriqué à partir de n'importe quelle graisse ou huile. Mais quand on utilise de l'huile végétale, on utilise souvent de la nourriture qui pourrait être mangée. Nous ne voulons pas utiliser de la nourriture, mais plutôt des déchets. Au lieu d'utiliser quelque chose qui aide les populations et qui peut éviter une crise alimentaire, nous préférons utiliser quelque chose qui, dans tous les cas, ne polluera pas l'environnement.
En faisant des recherches, elle découvre que les plumes de poulet contiennent de la graisse, que l'on peut extraire terre pour fabriquer du biocarburant. Et en brûlant, grâce à une réaction chimique, les plumes peuvent aussi produire de l'énergie permettant à leur machine de fonctionner. Hilda Ismaili.
Nous avons imaginé un système composé de deux réacteurs. Dans le premier, nous faisons brûler des plumes de poulet. Cette combustion va produire une énergie qui va aller dans le deuxième réacteur pour lui permettre de fonctionner. Ensuite, la mission du second réacteur, c'est d'extraire l'huile contenue dans les plumes de poulet pour produire du biocarburant.
Dans leur pays rural, plombé par un chômage endémique, les ados ambitieuses vantent le côté économique et social de leur projet. Récompensé aux États-Unis lors du prestigieux concours Google Science Fair.
Il y a beaucoup d'industries qui produisent de la viande de poulet. Et dans les villages et les campagnes, il y a aussi beaucoup d'habitants qui vivent et se nourrissent grâce à leurs poules. À la Google Science Fair, le jury nous a demandé quels étaient nos projets futurs. Nous lui avons dit que nous aimerions créer une usine capable de produire ce biocarburant. Ainsi, les industries de poulet pourraient nous donner leurs plumes au lieu de les jeter. Et les villageois pourraient également vendre les plumes. Et grâce à cette usine, les habitants des campagnes gagneraient un peu plus d'argent et nous donnerions aussi du travail à des personnes en les embauchant.
Anela et Hilda Voigrand, des tests en laboratoire ont prouvé la qualité de leur biocarburant utilisable dans les voitures. Et selon elles, le coût peu élevé de leur système permettrait à un pays comme la Bosnie de le mettre en place. Mais avant de le développer à grande échelle et de le commercialiser, il reste beaucoup de travail. Deux professeurs d'université bosniens leur ont proposé de les aider à poursuivre leurs recherches. Mais les jeunes filles ont les yeux rivés vers l'international. Elles souhaitent approfondir leurs connaissances en étudiant les sciences et l'économie aux États-Unis et au Royaume-Uni. Leur objectif, revenir en Bosnie pour créer leur propre usine et participer au développement économique de leur pays.
Qui êtes-vous ?
Je suis moi.
Lui, c'est moi.
Et je suis vous.
Expliquez-vous, je vous prie.
C'est un des visages de la révolution ukrainienne de l'Euromaidan de novembre 2013, l'une des rares nouvelles têtes dans un pays qui, curieusement, a très peu renouvelé ses élites politiques. Yulia Maruchevska n'a que 26 ans, mais au poste de nouvelle chef des douanes de la région d'Odessa, elle entend aussi réformer le pays. Son portrait par Sébastien Gobert.
Elle est le visage de la génération du changement, sans expérience mais avec beaucoup d'ambition. Yulia Maruchevska n'avait que 24 ans quand son visage a fait le tour du monde. Étudiante, elle s'était portée volontaire sur le campement révolutionnaire de l'Euromaïdan et dans des hôpitaux où étaient envoyés des blessés des barricades. Après une rencontre avec un réalisateur américain, elle y a tourné une courte vidéo « I am a Ukrainian ». Elle y explique le sens du combat des révolutionnaires et la peur d'une répression violente. En quelques semaines à peine, la vidéo a été visionnée plus de 7 millions de fois sur YouTube. Yulia Maruchevska y gagne une stature internationale et une forte popularité en Ukraine. Elle multiplie alors les conférences et les rencontres avec des personnalités politiques et des diplomates et se rapproche de l'équipe réformatrice de l'ancien président géorgien Mikhail Saakashvili. Après quelques projets plus ou moins aboutis, celui-ci l'a fait nommer chef des douanes d'Odessa, ce qui fait jaser. D'ailleurs, quand le président Petro Poroshenko annonce sa nomination, il vante ses talents d'organisation, sa modestie et sa beauté, mais certainement pas son expertise dans les questions douanières. Et pour cause, Yulia Maruchevska reconnaît elle-même qu'elle n'y connaît rien et qu'elle n'aime pas son travail aux douanes. Elle qui se décrit comme une jeune patriote éduquée à l'occidental, qui est passée par la prestigieuse université Stanford, elle doit maintenant travailler dans un bureau typiquement post-soviétique, rempli de fonctionnaires notoirement corrompus. Elle ne souhaite pas rester longtemps aux douanes, elle n'est à ce poste que pour superviser une refonte du système. Yulia Maruchevska, visage de la révolution, est devenue le symbole de sa mise en pratique, lente, technique et difficile.
Speak to your friends, speak to your family, speak to your government and show that you support us.
Les jeunes européens.
Et c'est lors de notre chronique jeune enrichie jusqu'à la fin de l'année avec le soutien de la représentation de la Commission européenne à Paris. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Frédéric.
Le sujet refait surface dans les débats politiques en Europe depuis plusieurs années. C'était encore le cas ces dernières semaines en France. L'avortement était l'un des sujets de campagne du Front National qui veut en limiter le remboursement. Ailleurs en Europe, il est également remis en question dans plusieurs pays.
Oui, depuis cet été au Portugal par exemple, les patients devront eux-mêmes prendre en charge les frais d'opération en cas d'avortement qui étaient jusqu'ici pris en charge par l'État depuis la légalisation de l'avortement en 2007 dans le pays. Et en Espagne, la loi de restriction des conditions d'avortement annoncée déjà depuis plusieurs années a été votée en septembre. Même en France, vous le disiez, qui est en Europe l'une des législations les plus souples sur la question, les conditions d'accès à l'avortement faisaient partie des arguments de campagne du Front National, notamment dans la région Provence-Alpes Côte d'Azur, et en Irlande, qui a l'une des législations les plus sévères, cette fois-ci en Europe. Le sujet a encore très récemment fait l'actualité par le biais d'une initiative citoyenne, Le Point depuis Dublin avec Sébastien Duval.
De nombreuses Irlandaises se sont mises le mois dernier à tweeter à leur Premier ministre, Enda Kenny, le détail de leur cycle menstruel, de façon parfois très crue. Elles ont répondu à l'appel de la comédienne et activiste Gronia McGuire, qui fait campagne en faveur de l'avortement. Quand on sait à quel point l'État s'intéresse à nos organes de reproduction, il est normal de tout lui partager, explique la jeune femme. De tradition catholique, le pays est l'un des plus stricts au monde sur le sujet. Le 8e amendement de la Constitution irlandaise donne des droits égaux au fœtus et à la mère. Un avortement illégal y est passible de 14 ans d'emprisonnement. La loi a été assouplie en 2013 suite à la disparition de Savita Halappanavar, victime d'une septicémie, alors qu'elle s'était vue refuser une IVG. L'avortement est désormais autorisé en cas de risque réel et substantiel pour la vie de la femme, une notion prêtant à confusion parmi le corps médical. Plus de 4000 Irlandaises se rendent chaque année à l'étranger, notamment en Angleterre, afin de pouvoir avorter. Le Premier ministre Enda Kenny a promis récemment la création d'une assemblée citoyenne pour discuter de ce sujet très sensible, mais pas avant les élections législatives du printemps prochain.
Le cas irlandais, mais globalement, Eve, à l'échelle mondiale, l'Union européenne est plutôt libérale sur la question.
Oui, on peut le dire, puisque sur 28 pays de l'Union, la grande majorité protège le droit à l'avortement à la demande, comme on dit, c'est-à-dire sans condition. Actuellement, seulement 6 pays restreignent le droit à l'avortement à des cas de santé extrêmes ou à l'autorisation explicite d'un médecin ou d'une visite d'un psychologue, par exemple, dont le Royaume-Uni, le Luxembourg ou la Finlande. À Chypre et à Malte, il est carrément passible de prison. Mais rappelons tout de même qu'il existe certains pays où il est quasiment impossible, comme la Pologne ou encore l'Irlande, dont on parlait à l'instant.
Et une initiative du Parlement européen il y a quelques années visait même à la création d'un droit européen à l'avortement. Qu'en est-il ?
Oui, un grand projet ambitieux, une initiative menée en 2013 par une eurodéputée portugaise et refusée par la majorité des eurodéputés à Strasbourg. J'ai demandé son avis à Gonzalo sur la question. Il a 22 ans, il est portugais et habite en France depuis plusieurs années.
Il n'y a plus de valeur européenne aujourd'hui. Et je pense que justement... Une démarche comme celle-là, de globaliser l'avortement à l'échelle européenne, ça pourrait nous remettre dans une bonne voie. Parce que je pense que en termes de loi sociale, c'est vraiment une des seules qui touche au plus profond de ce que c'est l'humanisme, ce que c'est l'humanité, enfin de comment il ne faut pas juger l'autre pour les choix qu'il fait. C'est un choix fondamental à la femme.
Et alors justement, Eve Minot, qu'en est-il ? Aura-t-on une directive européenne sur l'avortement ?
Alors aujourd'hui, la question n'est toujours pas d'actualité. C'est en tout cas ce que nous répond Constance Le Grip. Elle est eurodéputée, appartient au Parti Populaire Européen et est membre de la Commission des droits de la femme au Parlement européen et de l'égalité des genres.
Il n'y a pas de fondement juridique pour écrire un droit européen à l'avortement. Nous considérons, notamment mon groupe politique considère que cette question-là, les modalités, l'encadrement, la manière dont doit être pratiquée et les détails précis, les modalités précises de l'interruption de grossesse, tout cela relève de la compétence des États membres.
Voilà, pas de compétence de l'Union européenne sur la question, même si peut-être ce droit aurait pu trouver sa place dans le cadre de la protection des droits de la femme. Mais pour l'instant, on vient de l'entendre, hein, l'idée d'un parapluie européen pour protéger le droit à l'avortement à l'échelle européenne n'est pas prête d'aboutir, Frédéric.
Merci Eve Minot, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Restez à notre écoute. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'information sur RFI.
Autour de la question.